Bonjour.
Alors après cette catastrophe, on se souvient que les pouvoirs publics avaient réagi en lançant plusieurs réflexions dans les domaines de la prévention, du contrôle, de l'information des populations, jusqu'à aboutir à l'adoption en 2003 de la loi dite Bachelot. 20 ans après cette catastrophe, d'autres leçons ont-elles été tirées ?
Alors, c'est un mouvement un peu paradoxal. D'une certaine façon, un grand nombre de mesures ont été prises pour effectivement prévenir à la source ces risques industriels avec des prescriptions techniques de plus en plus contraignantes. Ça aboutit à, notamment au renforcement de la surveillance dans les années 2000 après l'accident. En sens contraire, malgré tout, on assiste depuis 20 ans, en fait, c'est un peu paradoxal, à une forme de dérégulation du risque industriel, puisque plusieurs, au niveau de la réglementation des établissements classés, on constate un assouplissement général des contrôles. Par exemple, depuis les années 2010, en fait, et même un petit peu avant, les inspecteurs des établissements classés ont stagné au niveau de leur effectif, et puis surtout leurs visites ont chuté de 40%, par exemple. Ils ont été beaucoup plus accaparés sur des dossiers administratifs ou des instructions plutôt que sur des réels contrôles. Et puis, on constate aussi diverses mesures d'assouplissement au niveau juridique, hein, des dossiers administratifs pour les industriels, depuis notamment la fin des années 2000, avec en 2009-2010... La diminution du nombre d'établissements devant se soumettre à une autorisation de fonctionner. Et puis, beaucoup plus récemment, en 2018, avec la loi ESSOC, c'est-à-dire la loi pour une société de confiance, ou la loi ASAP, qui a été promulguée l'an dernier, donc la loi pour l'accélération et la simplification de l'action publique, les industriels sont beaucoup moins contraints, en fait, dans leur dossier d'autorisation pour pouvoir s'installer.
Vous évoquiez la baisse, si je vous comprends bien, du niveau donc des contrôles menés par les services de l'État. Est-ce que l'accident sur le site de Lubrizol à Rouen, c'était en 2019, en est une illustration ?
Ben justement, j'allais justement souligner que l'accident de Lubrizol a mis en valeur justement ce desserrement des contraintes qui avait eu lieu dans les années 2010, hein, après un renforcement des contraintes dans les années 2000. Elle a montré, par exemple, cette catastrophe de Lubrizol a montré effectivement que le nombre d'inspections avait considérablement diminué, que le nombre d'inspecteurs avait stagné, et que par ailleurs, ça avait été aussi une des causes de l'accident, hein, que des autorisations préfectorales d'agrandissement des stocks avait été signé par le préfet durant les mois qui précédaient l'accident sans aucune évaluation environnementale. Et cette autorisation préfectorale avait été justement permise grâce à la loi ESSOC d'août 2018, alors qu'avant cette loi ESSOC, il fallait une évaluation environnementale pour un agrandissement des stocks dans certaines mesures. Et donc l'accident de Lubrizol effectivement a révélé un assouplissement des règles, en fait, pas au niveau technique, hein, pas au niveau de la sécurité purement technique, mais au niveau juridique, un assouplissement des règles qui étaient soumises aux industriels. Et puis aussi une baisse du recours des tiers. Vous avez parlé des missions d'information au public, etc. Il faut quand même savoir que depuis la grande loi sur les établissements classés de 1976, régulièrement, le recours des tiers est restreint, notamment dans la durée d'intervention, puisqu'il est passé de 4 ans à 1 an jusqu'à 6 mois maintenant. Et donc, c'est un paramètre, en fait, très important sur la sécurisation des sites, c'est-à-dire le contrôle des voisins, en fait, tout simplement, qui vont être un des éléments de la régulation par leur alerte, par leur action pour sécuriser le voisinage. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est très en retrait, et y compris avec la loi ASAP, hein, très récemment, puisque les questions d'information publique sont beaucoup moins rigoureusement prévues que par le passé.
À ce titre, M. Leroux, est-ce que l'urbanisation, notamment des usines, est aujourd'hui une bonne chose ? Ne faudrait-il pas renforcer peut-être justement la surveillance de ces usines urbaines ?
Ah ben, c'est évident, c'est quand même les usines qui présentent le plus de risques à la population. Après AZF, hein, il y a eu ces PPRT, ces plans de prévention des risques technologiques qui ont justement abouti à niveau local à mieux prévenir les risques, à mieux informer les habitants et aussi, dans certains cas, à séparer en fait plus clairement les usines des lieux habités. Alors tous les PPRT n'ont pas abouti encore, pourtant on est 20 ans après, enfin 18 ans après l'adoption de ces PPRT. Malgré tout, il y en a beaucoup qui ont été conclus. Donc de ce point de vue-là, du point de vue de la prévention des populations locales et de leur information, c'est plutôt un progrès. En revanche, il existe encore énormément de sites Céveso ou non Céveso, mais qui présentent des dangers importants et qui sont effectivement très très proches des habitations. Et là, en dehors et en plus des PPRT et de tous ces dispositifs de prévention, il est évident qu'il faut renforcer la surveillance, les contrôles et aussi la répression, parce que c'est un autre aspect aussi qui a été révélé avec Lubrizol, c'est que la répression en fait est très très faible vis-à-vis des contrevenants. Hein. Par exemple, c'est 10% seulement des arrêtés préfectoraux qui constatent une infraction qui vont se conclure par une sanction pénale. Et cette sanction pénale, en fait, ce sont souvent des amendes. Et ces amendes, les industriels en général peuvent les payer, mais ils se soustraient à d'éventuelles poursuites en justice correctionnelle pour non-respect des prescriptions d'autorisation, en fait. Et ça arrive très souvent.
Et on terminera par ces mots. Merci Thomas Leroux, historien, donc chercheur au CNRS, je le rappelle, spécialiste de l'histoire du risque, d'avoir répondu à l'invitation de France Culture ce midi. Merci également à Eleonora Farad pour la préparation.